Avoir un emploi du temps. Avoir un emploi du temps. Pas dans la tête. Pas dans la tête. Nous verrons que nous avons beaucoup de choses dans la tête. C'est un de nos problèmes. Et nous le heurtons à quantité de situations difficiles parce que nous pensons qu'il est suffisant d'avoir les choses en tête. Quelqu'un a écrit ceci. Quand tu n'as pas de programme, tu programmes un échec. Et je ne parle pas ici du programme de l'Église. Ça, c'est facile. Réunion le mercredi à 14h pour tel groupe, etc. Non, pas ça. Là, il faut avoir une souplesse, c'est-à-dire savoir changer les horaires et changer les jours pour éviter à l'Église de s'installer. Mais ça, c'est un autre thème de la dynamique d'Église locale. Mais je veux parler ici de notre travail personnel, de notre emploi du temps personnel. Vous connaissez certainement aussi l'adage gouverner, c'est prévoir, n'est-ce pas? Et c'est une des grandes querelles qui existent au niveau actuel, sur le plan des gouvernements qui se succèdent. Gouverner, c'est prévoir. J'ai lu, à quelque part, l'histoire survenue dans un hôpital psychiatrique. Un jour, un des malades franchit le portail et s'enfuit dans une rue aussi vite qu'il le peut. Et les infirmiers le rattrapent et le ramènent à l'hôpital. Le jour suivant, un autre malade réussit à fausser compagnie aux infirmiers, s'enfuit par une rue et on le ramène. Le troisième jour, même scénario. Le quatrième jour, même scénario. Et ceci s'est passé 10 jours d'affilée. Et chaque fois, un autre malade réussissait à fausser compagnie à ses surveillants et à s'enfuir par une rue. Et la conclusion est celle-ci, n'est-ce pas? Si ces 10 malades avaient pris la fuite en même temps, et chacun dans une autre direction, certainement plusieurs d'entre eux auraient réussi leur coup. Hein? Bon, il se trouve que c'est précisément parce qu'ils n'avaient pas cette faculté de s'organiser qu'ils étaient dans cet établissement. Mais ça m'amène simplement à dire ceci, mais est-ce que nous n'agissons pas ainsi? Est-ce que là, il n'y a pas un problème? Je me dis que peut-être le manque d'efficacité dans le bon sens du terme vient, dans notre ministère, de ce qu'il n'y a pas cette organisation, n'est-ce pas? Il y a une dispersion qui est profondément préjudiciable, dommageable, en ce qui concerne notre ministère. Alors, ce sont des suggestions. Notre ami Pierre Huiller m'a remis ici à votre disposition, je le laisserai sur cette table, une grille différente, intéressante. Je crois que vous pourrez vous servir, hein, il y en a là suffisamment. C'est un autre projet. Mais je crois que ces projets se rejoignent, je vous donne là d'autres détails. Le tout, c'est d'avoir un emploi du temps, et un emploi du temps qui respecte un certain nombre de points communs. N'est-ce pas? Quel que soit votre emploi du temps, la manière dont vous allez le formuler, nous verrons, après l'avoir fait ensemble, un certain nombre de points qui doivent figurer sur tout emploi du temps, sans quoi il perd de sa valeur, de son efficacité. Avant tout, d'un programme hebdomadaire. Hebdomadaire, parce qu'on va préparer le programme quotidien à partir du programme hebdomadaire. C'est un programme qu'on affichera dans le lieu où l'on travaille, dans son bureau, là où on est, bien sous son nez, bien visible, n'est-ce pas, pour qu'on soit toujours obligé, sans le vouloir, de mettre le nez dessus. Il n'y a rien de tel pour nous rappeler nos priorités. Je veux dire volontairement des choses qui sont le béaba, n'est-ce pas? Mais il se trouve que parfois on spiritualise tellement qu'on n'a plus les pieds sur la terre. Et ça, c'est un des gros problèmes de notre enseignement qui est très hellénique. Il est très peu judaïque, c'est-à-dire très peu porté sur la leçon de choses, sur la vie pratique. Nous avons un enseignement qui plane. Alors on a souvent du mal à rejoindre les gens sur la terre avec leurs problèmes. Alors je dirais des choses qui vont vous apparaître peut-être très très courante et banale, mais il me semble nécessaire quand même de les dire pour notre aide à chacun. Il y aura par exemple une rubrique bureau. Nous avons tous un travail bureau, ou vous pouvez appeler ça administration, je ne sais pas donner n'importe quel nom, mais c'est ce travail décrit essentiellement de téléphone, on est assis devant une table pour faire autre chose que pour manger. Avec tout d'abord une liste nominale du courrier. Je dis bien une liste nominale, il ne s'agit pas de mettre courrier, c'est trop vague, mais de mettre des noms. Vous avez remarqué, on a mis des noms. Alors en ce moment, c'est important, il y a des feuilles d'impôt, des déclarations, percepteur, urgent. Hein? Bon, ça peut être autre chose. Mais vous mettez bien les noms. Et entre parenthèses, la date. Bon, la feuille d'impôt, c'est la fin du mois, je crois. Il y aura peut-être 2 ou 3 jours. En général, il y a toujours cela comme bénéfice pour les retardataires. Et vous mettez une date, entre parenthèses. Et vous mettez ainsi toute votre liste de noms. Je dis tout de suite, en ce qui concerne cette liste, comme le reste, qu'il est important de placer en tête et dans une couleur spéciale, vous avez remarqué ici c'est le rouge, le second est souligné en rouge simplement, les objectifs prioritaires qui sont à atteindre dans le courant de la semaine. Cela signifiera qu'on va les attaquer en premier. Nous verrons tout à l'heure tous les bénéfices que nous allons tirer de cette liste. Vous indiquez en dessous, nous y reviendrons tout à l'heure, nous dirons d'autres détails. Nous indiquerons en dessous, par exemple, les travaux administratifs. Tout ce que nous pouvons avoir dans le cadre de notre association. Par exemple, si nous sommes secrétaires de l'association, il y a ici des anciens qui ont un rôle de trésorier ou de secrétaire, ou tout autre rôle, n'est-ce pas, et qui ont un travail administratif. Et souvent, le serviteur a un aspect administratif, ne fût-ce même que pour sa vie familiale, où il est chargé, dans la vie de la famille, de traiter d'un certain nombre de questions, sécurité sociale, feuilles de maladie, etc. Bon, on le met, on l'indique là, de manière systématique, et déjà en début de semaine. Ensuite, préparation d'études et travaux écrits à plus long terme, avec date limite entre parenthèses. Et ceci est d'une importance capitale, vous pouvez être appelé à devoir donner un message dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, en tel endroit, n'est-ce pas ? Vous l'indiquez, 2 mois avant, vous rentrez de votre voyage, ou vous avez reçu le coup de téléphone, vous avez dit oui, aussitôt on passe au programme, on l'indique dans le programme de la semaine, même si c'est dans 2 mois. Mais on met simplement entre parenthèses une date, flèche, date, qui indique dans combien de temps le message sera à donner. S'il est prévu des coups de téléphone importants pour des rendez-vous à tel moment précis, il y en a qui viennent dans l'impromptu, n'est-ce pas, dans le programme tout à fait naturel, mais il y a aussi ces coups de téléphone prévus où on se mord les doigts en disant « Ah, j'ai oublié !» N'est-ce pas ? Alors on le note à l'avance avec la date, éventuellement l'heure, le moment où la personne nous a demandé de l'appeler. Également, les personnes qu'on va devoir recevoir dans son bureau. Ceux qui ont pris contact avec nous, soit à l'issue du culte, soit dans la semaine, au marché, soit par un coup de téléphone en disant « Je vais vous rencontrer. Bon, nous prenons rendez-vous à tel moment ici chez moi. » Et vous l'indiquez également dans votre programme, toujours leur nom, leur prénom. Ensuite, vous pourriez y ajouter d'autres choses. Ce sont des choses auxquelles j'ai pensé, c'est ce que je fais personnellement, pratiquement, n'est-ce pas ? Avec quelques nuances près. Extérieur, c'est-à-dire tout ce que vous avez à faire dehors, les visites à effectuer au dehors. Nous verrons le lien avec l'agenda, on en parlera tout à l'heure. Les réunions qui sortent du cadre habituel de l'Église, les démarches, achats de matériel, rendez-vous personnels dans le cadre du ministère, les déplacements, séminaire Billy Montigny, telle date, n'est-ce pas ? Bien à l'avance, dès que la date est fixée. Famille, ensuite, ça c'est important. C'est important, avoir une rubrique famille. Et nous en reparlerons de la famille, elle est importante, beaucoup plus qu'on ne pense souvent. Sorties en famille, elles sont à programmer. Si on ne les programme pas, souvent on ne les fait pas, n'est-ce pas ? Les événements, les anniversaires, c'est à noter. Anniversaire des enfants, anniversaire du conjoint. Travaux de bricolage pour lesquels notre épouse, si elle n'est pas bricoleuse, nous dit depuis 1 an et demi, toutes les semaines, tu sais chérie, la prise là, elle me serait quand même bien utile. Est-ce que tu ne crois pas que ? Ou bien on profite de quelqu'un qui est de passage, n'est-ce pas, pour lui demander de faire le travail ? Voyez, alors on indique ces choses aussi, et ainsi de suite. Là, pensez à tout ce qui peut vous passer par la tête, en fonction aussi même de votre type de ministère. Mais c'est pour vous donner un certain nombre de pistes à suivre, poser, tringle, cuisine, parce que je viens de le faire, voyez, alors je me suis basé là-dessus. Soirée familiale, hein, un mardi soir qu'on veut garder, pour faire une surprise, parents d'élèves. Alors il y en avait une, je n'étais pas là, mais ma femme y est allée hier soir, 12-2, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors j'ai dit, qu'à la suite, que pour ce programme, premièrement, on place en tête, je le répète, dans une couleur spéciale, les objectifs prioritaires à atteindre dans la semaine, à attaquer en premier, et faites attention, vous aurez toujours cette tendance à mettre instinctivement ce qui est le plus difficile en bas de liste. On a toujours tendance à vouloir attaquer en dernier ce qui est barbant, enfin bref, on se comprend, je crois. Alors que c'est précisément cela ce qu'il faut absolument essayer d'évacuer en premier. C'est d'une importance capitale. Ce sont des verrous, ce sont des verrous qui nous bloquent et ce sont souvent des situations qu'on repousse de semaine en semaine quand elle les met en queue. Ensuite, l'important est de barrer au fil de l'accomplissement du programme. Et de ne barrer que ce qui est achevé. Parce que ça, encore ça apparaît banal. Je suis frappé du banal des choses, mais combien nous passons à côté du banal? Combien nous pensons que telle chose est secondaire? Nous allons voir, je vous donnerai des exemples classiques que j'ai vécu, ou des personnes m'ont raconté, suite à des séminaires de ce type, n'est-ce pas, de ce qui leur est arrivé. Parce que quand on barre, on a la satisfaction psychologique, nous allons y revenir, n'est-ce pas, d'avoir achevé un travail. Et je crois qu'il faut se les payer, ces satisfactions psychologiques. Nous en avons besoin. Et Dieu veut se servir de tels canaux pour nous encourager aussi. Avoir aussi sur soi un agenda dans lequel on note au fil des jours les devoirs à accomplir lors de nos sorties. Quand on rentre à la maison, on va prendre soin de transcrire sur le planning hebdomadaire ou sur le bloc bureau. On aura l'agenda bureau, vous savez, de feuilles qu'on tourne avec les horaires pour ne pas oublier. Oh, ceci est très important. De prendre l'habitude de noter. Vous ne pouvez pas imaginer, même au niveau de notre comité fédéral, de la Fédération Belgique de France, ce que je me bats avec mes frères, Michel, et du comité, et pourrait le dire, combien de fois il m'arrive à dire à tel frère dans le comité, quand il s'engage à faire quelque chose, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien le noter? Parce qu'il ne le note pas. Et quand, bien sûr, 3 semaines plus tard, je dois téléphoner, ou envoyer une lettre, ou que j'ai besoin d'urgence du document, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, non pas par négligence au niveau du devoir, mais simplement, il faut remonter à l'origine, n'est-ce pas? Il ne l'a pas fait parce qu'il ne l'a pas noté. Ça commence déjà là, n'est-ce pas? Au niveau d'une simple note. Et combien de choses... Vous verrez, vous ferez l'expérience vous-même, si vous n'avez pas l'habitude de noter, vous allez voir combien, c'est ainsi parce que nous mettons ces choses à la lumière, il y aura cette petite phrase, n'est-ce pas, à l'intérieur, note! Parce que vous vous serez dit, et nous avons cette manière de penser, oh, je ne l'oublierai pas. On me l'a dit, ça va rester là. Et on oublie qu'avec le temps, des dizaines d'autres personnes vont nous demander des dizaines d'autres choses. Et ce qui nous apparaissait si net quand on ne l'a dit, c'est évident, c'est une lapalissade, l'est beaucoup moins ensuite, d'autant plus s'y interviennent des événements négatifs, une situation de crise, etc., n'est-ce pas? Alors prendre vraiment, avoir le réflexe de noter au fur et à mesure les demandes formulées par nos amis, de manière à apprendre à tenir nos engagements. Et nous terminerons, d'ailleurs nous terminerons la matinée sur les avantages psychologiques d'abord. Primo, sentiment de quitter le flou, sentiment de quitter ce qui est vague, ce qui est là dans notre tête et qui se promène, n'est-ce pas? Et je crois que ça crée une insécurité, nous l'avons dit tout à l'heure. On se sent toujours plus engagé à faire une chose écrite. Quand on écrit, quand on pose une chose sur le papier, on se sent immédiatement, psychologiquement, même si on ne le ressent pas. Mais quand on analyse tant soit peu sa réaction, on le remarque, on se sent beaucoup plus obligé de le faire. Elle devient un reproche patent, tangible, visible, physique. Et nous avons besoin dans nos vies de reproches de ce type-là, plutôt que de choses extrêmement abstraites qui ne nous touchent pas directement. Nous l'avons vu, on a la satisfaction de barrer ce qui a été fait. Moi, j'ai eu une grande satisfaction dans ce domaine. Je l'ai noté au crayon avant de partir parce que ça m'a fait du bien. J'ai passé donc mes mois de décembre et de janvier pratiquement entièrement à la maison. Ça, on en reparlera dans l'équilibre du temps. J'avais 2 voyages seulement en janvier par rapport à tout ce que j'ai d'habitude. Et en novembre, j'avais donc fait mon programme pour décembre et janvier. Déjà un programme global des 2 mois et puis ensuite des programmes hebdomadaires, n'est-ce pas? Mais ce qui a été fantastique, ça a été en arrivant en fin janvier de me rendre compte que j'avais pu barrer à une exception près tout ce que j'avais mis au programme de décembre et janvier pour mon planning de travail à la maison. Mais c'était fantastique, vraiment ça m'a donné envie de louer le Seigneur. Parce que j'avais des grands projets que j'avais traînés dans ma tête tout au long de toute l'année 80, où je disais, tiens, décembre et janvier sont réservés à la maison, pour la maison, il faut que je fasse tel travail, dans tel domaine. Je le note, n'est-ce pas? Et de pouvoir arriver en janvier en disant, eh bien, tout ce qui avait été mûri pendant des mois et des mois a pu être fait, c'est formidable. On en a besoin, ça donne du punch, n'est-ce pas, pour la suite. C'est un encouragement sur le plan psychologique. Troisième avantage, c'est la possibilité d'une mise au point au début de chaque semaine lorsqu'on établit le nouveau programme en fonction de l'ancien. Et ça, c'est une bonne chose. D'être constamment obligé dans sa vie de faire des mises au point. C'est une des raisons pour lesquelles, et ça, bien sûr, les avis divergent, etc., j'aime faire des lettres circulaires. Nous en faisons au régime de 3 ou 4 par an très régulièrement depuis 11 ans. D'une part, c'est vrai, parce que qui dit prière intelligente dit besoin d'une saine communication, d'information, n'est-ce pas? Ça, c'est un fait. Mais aussi parce que je me suis rendu compte très rapidement, en démarrant ce travail de circulaire, que au-delà de ces liens qu'il crée avec d'autres, de la prière, etc., n'est-ce pas, de toute cette grande famille qu'il crée autour du serviteur et de sa proche famille, il y a cet avantage extrêmement important d'obliger le serviteur à faire une mise au point quand il est devant son papier pour faire sa lettre. Chaque fois, ça m'a obligé, par exemple, à relire mes anciennes lettres. Et à me dire, tu vois, là, ce que tu as dit était inexact. Tu as pris une nouvelle naissance, ou plutôt tu as pris une décision pour Christ pour une nouvelle naissance. Tu as été trop rapide. Tu dois rectifier le tir. Dans tel domaine, tu as donné une information, mais qui déformait la réalité, on verra, parce que tu étais trop fatigué. Etc., n'est-ce pas? Et qui va m'aider donc à faire le point dans ma vie. Et je vais pondre ma nouvelle circulaire en fonction de la manière dont j'avance dans la vie de l'Église avance, je peux voir les progrès, les échecs, je peux aussi réfléchir au mot d'ordre que Dieu m'a donné, parce qu'on va mettre un mot d'ordre, une pensée que Dieu nous a donnée, on va la faire passer dans ce courrier pour qu'il y ait une dimension qui fasse du bien à autrui, n'est-ce pas, d'humiliation ou autre. Et il y a tout un aspect pédagogique de la lettre de nouvelle dont on ne parle jamais, n'est-ce pas, et qui fait que la lettre nouvelle est souvent peu aimée de certains, n'est-ce pas, qui trouvent que c'est pas assez spirituel. Mais je crois que quand on commence à démonter tout ce que peut apporter une lettre circulaire, aussi bien à celui qui la reçoit quand elle est bien écrite, qu'à celui qui l'envoie pour sa vie personnelle et sa vie familiale et sa vie d'église, eh bien ça peut remettre des choses en question, n'est-ce pas? Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Alors, quand on établit un nouveau programme, on se rend compte des lacunes de la semaine précédente. Tel domaine, je dois le remettre au programme. Vous le remettrez au programme une semaine, peut-être 2. Mais ça va vous chiffonner, ça va vous mettre à l'aise, ça va être un aiguillon, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas constamment remettre d'un plan hebdomadaire à un autre plan hebdomadaire ce qui n'est pas fait. Pourquoi? Parce que si vous ne l'avez pas fait la semaine précédente, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir le mettre en tête dans la nouvelle semaine. Vous allez le mettre en rouge. Voyez? Donc vous allez vous discipliner pour faire ce qui a été repoussé. Ça, c'est d'une importance absolument capitale. Et puis, bien sûr, ça va aider à bâtir un programme quotidien. Le matin, je ne sais pas comment vous bâtissez votre journée. J'espère que vous la bâtissez, mais je sais que des serviteurs ne bâtissent pas leur journée. Ils ont une réunion le soir, n'est-ce pas? Ils ont 1 ou 2 petits points de repère et ça s'arrête là. Une journée se bâtit. Et je dirais qu'une journée se réfléchit déjà la veille. La veille au soir, on commence à penser. Mais comment est-ce qu'on va penser si on n'a pas de point de repère? Le point de repère, c'est précisément d'une part le programme hebdomadaire et d'autre part le programme du jour. N'est-ce pas? Et le matin, je vais voir mon programme hebdomadaire. Et je cherche dans mon programme hebdomadaire la priorité qui n'a pas encore été réglée, ce qui n'est pas encore barré. j'y trouve le coup de téléphone à donner ce jour-là, etc., n'est-ce pas? Et j'élabore donc mon programme quotidien sur la base de ce programme déjà inscrit au plan hebdomadaire. Puis je regarde mon agenda, n'est-ce pas? Et je vois encore d'autres éléments qui ont peut-être été ajoutés entre-temps. Mais c'est important de bâtir ces journées. Ça, je vous encourage fortement. Je crois que là, nous vivons vraiment dans la brousse, très souvent, même nous, en tant que disciples de Christ dans notre monde organisé. On démarre la journée, on ne sait pas où on va. Et ça, c'est une chose qui n'est absolument pas normale. Alors, bien sûr, il faut éviter de trop charger le programme du jour pour prévoir l'imprévu. Une des raisons de nos problèmes en ce qui concerne l'imprévu, c'est que quand nous prévoyons un programme quotidien, souvent nous le chargeons trop. Il faut avoir des programmes très souples. Par exemple, nous avons tous des allers-retours, etc., des gens que nous devons aller chercher. Une quantité de choses de ce genre. Ne prévoyons pas un programme serré. Prévoyons le programme pneu crevé. Prévoyons-le, c'est une nécessité. Moi, je souffre dans mes voyages de ce que parfois on fait. Bon, c'est rare, parce que je me bats avec les serviteurs de Dieu. Mais pour me faire monter dans un train en marche, moi, j'y tiens pas. Il y en a assez qui se sont coupés les jambes sous un train en voulant aller trop vite, n'est-ce pas? C'est quand même dramatique. Ou en attrapant un avion à la dernière minute, n'est-ce pas? C'est pas normal. Et je crois qu'il faut apprendre à appeler péché ce qui est péché, n'est-ce pas? Parce que nous savons tous ce que c'est d'arriver à la dernière minute sur un lieu de réunion. On est énervé. On n'a pas glorifié le Seigneur dans le voyage, on a peut-être brûlé un feu, ou on l'a passé alors qu'il était en train de rougir de timidité devant notre agressivité, etc., etc., n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pas normal de telles choses. Bon, on a eu le cas ce matin, Paul sera d'accord, hein, je vais le dire. Bon, nous aurions dû, si tout était bien allé, arriver une heure avant. Nous ne voulions pas forcément arriver à une heure avant. Mais on bénit le Seigneur pour cette heure d'avance, parce que quand on est arrivé dans les environs, on a nagé, comme Abraham quand il était avancé dans ce sens-là, n'est-ce pas? On a nagé dans la périphérie de Billy Montigny pendant trois quarts d'heure. Et on est arrivé dans les temps. On est arrivé dans les temps. La dernière fois que je suis venu ici, au moment d'entrer dans la voiture pour partir à la gare, prendre le train qui m'amenait ici, juste pour l'heure, ou à Arras, je crois, hein, pour partir pour la pastorale, pneu crevé dans le garage. Bah, imaginez la dernière minute. Et je dois dire que dans mes 30-35 déplacements par an, ça m'arrive je ne sais pas combien de fois, n'est-ce pas? Et grâce à ce laps de temps d'un programme suffisamment souple dans la vie quotidienne, vous respirez. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Et vous pouvez ensuite injecter des imprévus sans avoir l'impression de faire déborder un panier déjà débordant. Voyez? Alors, je crois qu'il faut petit à petit prendre cette habitude de se dire « Non, si j'ai l'habitude de trop charger, eh bien maintenant, je vais commencer à mettre des délais d'un quart d'heure ici et là, n'est-ce pas, des petits trous ici et là, dans lesquels il n'y a rien. Nous verrons comment les boucher ces trous s'il n'y a pas d'imprévu. Nous le verrons ensemble, pratiquement. Mais ils sont là comme ces moyens de souffler et qui peuvent être remplis si c'est une nécessité. Nous terminons parce que nous voulons rester dans l'organisation du temps avec le repas. Je dis simplement encore ceci, cela nous évite d'oublier. Et notamment au niveau du courrier. Quelle souffrance quand on ne reçoit pas le courrier. Vous savez que des ministères sont gâchés. C'est vrai, il y a des ministères qui sont gâchés au niveau de l'absence d'une lettre absolument fondamentale pour s'engager. Moi, je viens d'avoir un problème, je vais partir en Guyane et en Martinique dans 2 semaines. J'ai eu un problème qui aurait pu être grave au niveau de l'avion. Tout simplement parce que ça ne bougeait pas là-bas de l'autre côté alors que nous avions fixé un délai et que j'avais dit à l'ami qui devait transmettre une invitation pour que je la reçoive de manière écrite, n'est-ce pas? Et j'y tenais, et puis c'est pas venu. Et puis une fois que j'avais programmé tout mon voyage, n'est-ce pas? Voilà, téléphone qui sonne, téléphone maintenant, c'est plus le courrier. Ça coûte cher, hein, le téléphone de la Martinique, hein. C'est 55 centimes les 6 secondes. Faut le faire, hein. Alors il téléphone pour m'inviter, pour me dire ça y est, confirmation de l'invitation. Et il m'a fallu prendre une journée, cette semaine, dans mon programme, pour bouleverser tout mon voyage, pour faire coordonner la Guyane, la Martinique avec mes avions et tout ça, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est dommage. Ce qui aurait pu être fait par courrier, calmement, n'est-ce pas? Sans problème. Voilà. Je vous donne un exemple, c'est très intéressant. Abonnement LIC pour la lecture de la Bible. L'an dernier, vous avez vu dans le lecteur, à cette époque, en février, Rappel, abonnement, coût à la Ligue, pour ceux qui ne se sont pas réabonnés, malgré leur système, ils savent s'organiser à la Ligue sur ce plan-là. Hein. Les A, B doivent s'inscrire pour se réabonner dans le courant du mois d'octobre. Les C, D, etc., à telle période, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ils essayent d'étaler pour des questions d'ordinateur, etc., enfin, d'un tas de choses, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche qu'il y a eu, tenez-vous bien si vous ne le savez pas, 8000 francs de dépenses de relance d'abonnement, tout compris, n'est-ce pas, papier, tout ce que vous voulez. 8000 francs l'an dernier. Alors j'étais en train d'inscrire ça dans mon programme, je prends le lecteur de la Bible et je regarde le 1er février 82, aujourd'hui commence la mise à jour de notre fichier, environ 2000 abonnés ont négligé de renouveler leur souscription à temps. Êtes-vous concerné? Malgré tout ce que je vous ai dit, hein, A, B, C, sur octobre, novembre, décembre, avec des rappels et un tas de choses, coût 10 000 francs. Environ 10 000 francs, mes amis, c'est plus que deux salaires mensuels avec SMIC, avec charge sociale au SMIC. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je dis que nous avons à nous humilier. Je viens, faisons des longs sermons sur la sainteté dans la vie de l'Église locale, n'est-ce pas, sur les envolées lyriques, etc. D'accord. Mais si ça n'entre pas dans notre vie de serviteur de Dieu au niveau de notre courrier, ben moi je dis non. Et croyez-moi, au niveau d'un travail national, de notre comité fédéral, et là encore Michel pourrait le dire, c'est incroyable ce que ça peut nous poser de problèmes. On n'imagine pas les répercussions d'un simple oubli de l'être, je le répète, n'est-ce pas? Alors je crois que là nous devons avoir le courage de l'humiliation, de dire écoute Seigneur, je te demande pardon, parce que je dois reconnaître que je suis négligent dans le courrier. Que de temps en temps, il y a un dérapage dans nos vies, ça nous arrive à tout le monde. Mais s'il y a un état d'esprit de négligence, alors c'est grave. C'est très grave. Et ça, c'est la Ligue, 10 000 francs. Mais ajoutez maintenant toutes les autres œuvres en France. Ajoutez tout ça. Ce sont des sommes fantastiques qui sont dilapidées, bêtement, dans du papier, dans des timbres, dans des retards au niveau des trains, des avions, dans une quantité de problèmes. Et au départ, qu'est-ce que c'est? C'est les petites choses de notre vie, n'est-ce pas? Alors là, je suis vraiment... Je voudrais parler avec conviction, n'est-ce pas? Parce que c'est une de nos plus grandes souffrances, ces petites choses. Vous savez que ça divise des ministères? Vous avez des brouilles qui naissent entre serviteurs de Dieu sur la base de manque d'échange de correspondance. Souvenons-nous-en, n'est-ce pas?
Nous entamons donc notre... second volet, très important aussi, avoir de l'ordre. L'ordre dans la Bible équivaut à beauté. C'est ce qui m'a beaucoup frappé en creusant un petit peu, en creusant aussi la terminologie biblique de l'ordre. Vous savez que le terme ordre, en réalité, vient de l'expression cosmos dans le Nouveau Testament, qui est traduite en général par monde. C'est l'ordre de Dieu. Mais comme le monde est aussi utilisé pour la puissance des ténèbres, c'est donc aussi un ordre diabolique. C'est un système de pensée diabolique. Une manière d'être ordonné qui caricature l'ordre de Dieu. Je crois que c'est très important quand on approche la conception de ce terme monde dans le Nouveau Testament. Ordre, et par extension, bien sûr, ordre de l'univers. Il est intéressant de constater que le mot univers signifie pratiquement la même chose, étymologiquement tourné, orienté, de façon à former un tout, un ensemble coordonné. Il y a une idée de coordination, unus versus un, tourner de manière à former un tout, aller dans une certaine direction. Et son opposé dans les Écritures, c'est le terme chaos, le chaos, qui signifie donc le désordre. Alors il y a, à côté de ce premier terme, dans les Écritures, une quantité d'autres termes utilisés ici et là, dans le texte grec du Nouveau Testament, qui rejoignent cette pensée, des passages très intéressants, je pense, à un passage que je viens de mettre sur fiche, on en parlera, dans Hébreux 11, verset 3, lorsqu'il est dit, c'est par la foi, était transcrit, par exemple, par Kuhn, dans ce texte d'Hébreux 11, le monde a été créé et ordonné, n'est-ce pas? En voulant rendre cette sensibilité de l'ordre. Tob traduira, toujours pour rendre la sensibilité du mot initial, les mondes ont été organisés. Pour éviter d'en rester à la dimension cosmos, le monde en tant que terre habitée, mais cosmos, les univers, qui est la dimension la plus vaste, n'est-ce pas, du terme cosmos, la dimension cosmique en réalité, n'est-ce pas? Alors ici, même dans ce terme grec, il est intéressant de constater cette pensée que le monde a été organisé, a été arrangé, a été mis en ordre par Dieu, pas simplement formé au sens où on peut l'entendre très classiquement. Vous avez un autre terme, le terme cosmios, qui est utilisé dans 1 Timothée 3, 2, et qui concerne un des caractères de l'ancien. C'est intéressant de constater combien les Écritures insistent sur le caractère, beaucoup plus que sur les capacités des anciens. D'abord le caractère. 1 Timothée 3, 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, et puis cosmion, c'est-à-dire sociable. Et le terme sociable, qui est traduit d'ailleurs dans Tob par de bonne tenue, ce qui est aussi tout à fait exact, ce qui signifie d'abord bien ordonné, en bon ordre, bien arrangé. Il faut qu'il soit correct. Ça commence par là, et je crois qu'il faut avoir ce bon sens, n'est-ce pas? L'ancien, c'est pas quelqu'un qui est débraillé. Ça commence à ce niveau-là. Et il y a certainement un message à transmettre. Autant je ne suis pas chaud pour une certaine rigidité du passé, n'est-ce pas? Autant je ne suis pas chaud non plus pour les excès de désordre extérieur qui sont ceux que l'on a tendance à trouver actuellement aussi trop facilement. Et qui sont d'ailleurs le signe du déclin du respect de la personnalité, de sa propre personnalité d'ailleurs, pour commencer. Il est intéressant de voir que ce terme est utilisé dans 1 Timothée 2, 9 pour parler des femmes vêtues de manière décente. Vous voyez, dans le sens le plus banal, le plus pratique, le plus concret du terme. D'ailleurs, c'est là que vient le mot cosmétique. Ça veut tout dire, n'est-ce pas ? Le verbe « cosméo » qui est aussi fréquemment utilisé dans le Nouveau Testament et qui signifie, entre autres, « orné »,« décoré ». Matthieu 12, 44, il est question dans cette image concernant la maison qui est nettoyée et qui, hélas, restant vide, va permettre l'afflux de plus nombreux démons, avec tout le message que nous savons. Il est question d'une maison qui est balayée et ornée. C'est ce terme qui est utilisé. Vous voyez que cela rejoint ce sens de beauté. C'est-à-dire l'ordre dans la pensée de Dieu est beau. Il n'y a rien de ce que nous avons parfois tendance à voir dans l'ordre qui nous amène à le repousser. Vous savez qu'il y a un mouvement souvent de repoussoir vis-à-vis de l'ordre, parce qu'on peut avoir des conceptions de l'ordre qui sont des conceptions extrêmement rigides et extrêmement froides, n'est-ce pas, et qui n'ont rien finalement de la dimension de Dieu en ce qui concerne cet ordre. Matthieu 23, verset 29, il est question des pharisiens qui sont comparés à des tombeaux ornés. Vous voyez, extérieurement, avec tout ce qu'on peut voir dans nos cimetières, surtout à certaines périodes. Matthieu 25, 7, dans la parabole des 10 vierges, il est question de lampes apprêtées, de lampes préparées. Là encore, il y a un autre aspect, n'est-ce pas, complémentaire, qui donne bien une idée de l'ordre. De quelque chose qui a été prévu à l'avance de manière à ne pas être au dépourvu, pris au dépourvu, ce qui rejoint déjà une partie de notre message de réflexion de ce matin. Luc 21, verset 5, dans l'entretien entre Jésus et ses disciples, on lui fait remarquer le temple orné de belles pierres. N'est-ce pas, là encore, c'est toujours cette même dimension. Puis enfin, Tite 2, verset 9 et 10, il est question de faire honneur à la doctrine, d'honorer la doctrine. Donc, encore une fois, cette même dimension de beauté. Donc, le contraire du laisser-aller, le contraire de l'attitude brouillon, du débraillé. Un ordre plein de beauté, une harmonie qui honore Dieu. Et c'est vrai qu'il y a une diversité dans l'ordre. On a souvent, avec son arrière-plan, des conceptions très monolithiques, très subjectives de l'ordre, n'est-ce pas ? Alors qu'il y a des ordres qui, en apparence, peuvent s'opposer,
par subjectivité, alors que, en réalité, ce sont des ordres tout à fait complémentaires. Je crois qu'il est important de s'en souvenir ici. Puis vous avez un terme qui a donné en français le mot pax, qui est de la même famille. C'est le terme donc taxis, qui signifie mise en ordre, disposition, arrangement. 1 Corinthiens 14, verset 40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Eh bien voilà le terme utilisé. Colossiens 2, verset 5, c'est le terme taxis qui est utilisé lorsque l'apôtre Paul évoque avec joie, à côté des problèmes de déviation qui existaient dans cette église de Colosse, qui l'a fait fortement ressembler à l'église de notre temps avec ses grandes déviations actuellement, l'apôtre Paul se réjouit en constatant le bon ordre qui règne parmi vous. Et on sait que le terme taxis a été notamment utilisé comme métaphore militaire pour s'appliquer à une armée bien rangée et prête pour la bataille. Alors, il y a l'ordre qui a sa beauté d'une armée bien rangée. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose de magnifique. Et puis, il y a l'ordre tout aussi beau d'un magnifique tableau de peinture, n'est-ce pas? C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, qui exprime une autre dimension de la pensée de Dieu au sujet de l'ordre, pour éviter que nous nous opposions parfois sur ces questions. Alfred Kuhn transcrira « Votre vie est aussi ordonnée que celle d'une armée » en prenant cette métaphore militaire. Luc 1, verset 8 encore, il est question de Zacharie appelé à exercer son service dans le temple selon le tour de sa classe. Et bien là encore, c'est le même mot, le tour de rôle, le jour qui revient régulièrement. Il y a encore une fois une idée de régularité. Voilà donc un certain nombre de termes. J'ai pris également dans 1 et 2 Thessaloniciens ce thème du désordre. Vous savez que c'est un des grands problèmes de ces deux lettres eschatologiques tournées vers le retour de Christ, où certains vivaient donc avec une mauvaise conception eschatologique qui les amenait à se plonger dans le désordre. Et là, le terme désordre, c'est le terme atactos, toujours de la même famille, avec le alpha privatif, qui pourrait se traduire par rompre les rangs. Il y a encore un sens militaire, ceux qui font l'armée buissonnière, si vous voulez, voyez, au lieu de vivre franchement leur vie militaire dans le combat de la vie chrétienne. Alors vous avez ceci dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6 et suivant. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Ce terme est utilisé. L'apôtre Paul dira qu'avec ses compagnons d'œuvre ou d'armes et de service, il n'a pas voulu vivre dans ce désordre-là. Ce sont donc les textes de 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 12 et d'1 Thessaloniciens 5, verset 14. Peut-être vaut-il aussi la peine, avant d'aller plus loin, de voir simplement un passage auquel vous pensez certainement d'ordre dans la vie de Jésus, mais qui était la projection de son ordre intérieur, c'est la multiplication des pains. Hein, quand on range les personnes par série de 50 et de 100, quand ensuite on compte les paniers qui restent et les morceaux, etc., il y a là manifestement la projection d'un ordre intérieur dans la personne de Jésus-Christ. Ceci est à souligner. Donc, vous remarquez, sans que nous ayons fait une étude très approfondie, mais en faisant le tour d'un certain nombre de termes, combien l'ordre est présent dans la parole de Dieu. Il est là. Et il est important de le dire à une époque où cet ordre est tant contesté. Il est là dans les Écritures. Dieu est un Dieu d'ordre. Et quand quelqu'un se convertit à Jésus-Christ, eh bien, que Dieu lui donne la grâce de donner carte blanche au Saint-Esprit pour faire action d'ordre dans sa vie personnelle sans tomber dans un stéréotype de l'ordre, ce qui serait tomber aussi dans un légalisme outrancier. Ça, c'était donc l'appui biblique, doctrinal, à la partie pratique que nous abordons maintenant dans le point 2. Ordre, ou l'ordre, amène avec lui la sérénité, dit négativement, il évite l'énervement. Le désordre extérieur amène le trouble intérieur, ai-je noté, par la fenêtre du regard. Et je dis ceci en ajoutant aussitôt, même lorsqu'on travaille apparemment sans problème dans le désordre. Parce que c'est vrai, quand on parle d'ordre dans le travail, il est des amis qui nous disent aussitôt « Oh, mais moi je suis très bien capable de travailler dans un bureau complètement en désordre, ça ne me gêne pas du tout. » Je veux bien. Mais ce à quoi je réponds simplement, vous savez, on n'a que le bonheur de ce qu'on connaît. Quand quelqu'un me dit qu'il est heureux en dehors de Christ, je veux bien le croire. Je ne vais pas essayer de l'amener à me dire, contre sa volonté et sa conviction intérieure, qu'il est malheureux. Ça ne sert à rien. Je le rendrai malhonnête. Par contre, je lui dis aussi, écoute, mon ami, mais tu as le bonheur de ce que tu as. Peut-être que tu pourrais connaître une autre forme de bonheur, n'est-ce pas ? Hein ? Et il en est ainsi dans ce domaine. Quand on a 10 francs en poche, si l'argent était synonyme de bonheur, ben on aurait le bonheur de 10 francs, mais quand on aurait 10 millions en poche, dans la mesure où les poches sont très grandes, eh bien on aurait le bonheur de 10 millions. Et ça c'est important parce que ce sont ces petits pièges que l'ennemi nous met sur le chemin. En disant, mais écoute, ne t'inquiète pas, tu travailles bien dans le désordre. Et tu as ton petit désordre à toi, en plus, très personnel. Et tu demandes surtout que personne n'entre pour mettre en désordre ton désordre. Hein? On dit à l'épouse, tu sais, si tu entres dans mon bureau, bon, oui, je veux bien. Mais quand on a vécu dans ce désordre-là, qui apparemment ne nous perturbe pas, et que, convaincu par Dieu de la nécessité de changer d'attitude à cause de ce que la parole de Dieu dit, on se dit non, il y a peut-être quand même mieux que cela, et je vais réformer dans un certain nombre de domaines mon attitude, on réalise, après, ben, qu'on n'a eu qu'un petit bonheur. Parce que, réfléchissons un petit peu, le désordre nuit à une concentration de qualité. On se sent quand même beaucoup plus vite submergé dans le désordre. On a parlé de plan de travail ce matin. Sans plan de travail, c'est-à-dire dans le désordre au niveau de l'organisation de notre programme, on ne peut pas du tout se concentrer de la même manière. Nous avons un texte dans l'Ancien Testament que j'ai découvert après l'avoir lu je ne sais combien de fois, mais dans ce cadre, c'est Exode 32-25 où Moïse descend de la montagne avec Josué après avoir rencontré l'Éternel qui lui a donné les tables de la loi, et il se rend compte en arrivant dans la plaine que le peuple était dans le désordre, et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre en sorte qu'il était presque réduit à rien devant ses adversaires. Et on peut faire, c'est Exode 32-25. Et il y a là un lien évident entre une situation de désordre, qui est une situation de désordre moral, mais avec toutes ses répercussions dans quantité d'autres domaines, et l'avantage pris par l'adversaire, nous le verrons dans une quantité d'autres domaines cet après-midi, sur le peuple d'Israël. L'ordre amène avec lui la sérénité, évite l'énervement. On le verra simplement tout à l'heure au niveau de la prédication. L'ordre d'un manuscrit est beaucoup plus important qu'on ne pense, et nous verrons des exemples ensemble pour la prédication, je vous en donnerai quelques-uns. Troisièmement, l'ordre engendre l'efficacité. Moins de perte de temps. J'ai apprécié que l'un d'entre vous fasse remarquer ce matin, je crois, dans la prière, il me semble, que ce soit moins de perte de temps pour celui qui vit dans le désordre, mais pour les autres aussi. C'est donc un manque d'amour dans la solidarité et du corps de Christ et de ceux qui sont en dehors du corps de Christ avec lesquels nous sommes en relation aussi. N'est-ce pas ? Je crois que c'est quand même une dimension importante de notre vie. Solution pratique. Solution pratique. Ce que nous avons dit jusqu'ici était pour nous mettre un peu l'eau à la bouche. Nous avons envie de travailler concrètement. Cela signifie tout d'abord des systèmes de rangement commode. Fichier, nous allons y revenir, ce sera le thème de notre mise sur fiche des Écritures, nous parlerons de fichier, comment faire un fichier. Classeur suspendu, je vous expliquerai, là je n'entre pas dans le détail maintenant parce que nous y reviendrons spécialement ce soir. Dossier étiqueté, un panier qui soit spécial courrier et spécial revue, une bibliothèque qui soit rangée par rubrique, c'est tout simple. Mais combien de fois on passe, je ne sais pas combien de temps, simplement chercher un ouvrage dans sa bibliothèque. Au lieu d'avoir des rangements par rubrique, j'ai réussi à trouver une histoire très intéressante d'un monsieur qui s'appelait Abdul Qassem Ismaël, grand vizir persan, qui était un homme de grand savoir du Xe siècle et qui possédait, figurez-vous, une bibliothèque de 117 000 volumes, à lui tout seul. Et il se trouve qu'il était guerrier et homme d'État, qu'il faisait de très nombreux déplacements, et dans aucun de ces déplacements, il ne s'est séparé de sa bibliothèque. Quand je vous parlais de mes voyages en train tout à l'heure. Hein. Alors comment faisait-il? Eh bien, ces ouvrages étaient transportés, tenez-vous bien, par 400 chameaux. Mais ces 400 chameaux avaient été au préalable dressés à circuler par ordre alphabétique, s'il vous plaît. Et les conducteurs biblio-tickers, j'allais dire, du grand vizir, pouvaient ainsi mettre immédiatement la main sur le livre demandé par leur maître. Formidable, quand même. Bon, n'allons pas jusque-là. Mais n'allons pas dans l'autre sens non plus. Alors posons-nous la question, où en suis-je avec ma bibliothèque? Est-ce que j'ai de l'ordre? Est-ce que j'ai un système de rangement? Ça, c'est le premier point, mais nous allons être aidés, en tout cas déjà au niveau du système de fichiers, de classeurs, d'élimination d'un volume de documents que nous traînons avec nous et que nous ne regardons jamais. Mais je ne veux pas déjà mordre sur le futur. Toujours en solution pratique, un second point, je pense qu'ils sont là, oui, c'est très important, élaguer constamment. Élaguer constamment. C'est-à-dire, sélectionner les abonnements. Je crois que nous avons souvent beaucoup d'abonnements qui sont des abonnements supplémentaires et non pas complémentaires, qui reviennent donc chers quand nous les payons. Posons-nous la question, c'est important, nous avons des devoirs dans ce domaine. Parce qu'on sait les problèmes que ça pose à celui qui tire le journal. Hein? Nous avons beaucoup d'abonnements complémentaires. Je crois qu'il vaut mieux, supplémentaires, avoir une sélection beaucoup plus restreinte, mais de journaux, de brochures qui soient représentatifs, n'est-ce pas, de différentes directions. Dans l'évangélisation, dans tel domaine de la vie chrétienne, il vaut beaucoup mieux faire ainsi. Et il vaut la peine de temps en temps d'élaguer. Et d'avoir aussi le courage d'écrire en disant, écoutez, ne m'envoyez plus cette revue. Ça encore, ça revient à cette discipline d'ordre, de savoir prendre la plume et de dire les choses à ceux qui nous entourent. Est-ce que je lis cette revue ou non? Est-ce que nous posons cette question? Est-ce que je lis cette revue ou non? Ou est-ce que régulièrement, elle passe au panier? Alors qu'elle a coûté quand même quelque chose. Fait-elle double emploi? J'aimerais dire ici une chose que j'ai ajoutée après coup. Nous avons tendance dans notre ministère à lire beaucoup trop de petites brochures et de petits journaux. Et je crois que ce n'est pas la meilleure chose à faire comme hygiène intellectuelle pour l'équilibre. Mieux vaut lire 2-3 bons bouquins, développés, complets, peut-être assez exhaustifs, entre guillemets, autant qu'on puisse l'être, dans un domaine précis, qui développe bien une pensée, pour acquérir une connaissance qui ne soit pas toujours une connaissance par bribes, tronquée, où on pique ici et là, n'est-ce pas? Mais avoir vraiment une pensée qui devienne aussi une pensée équilibrée. Et élaguer au niveau des revues. Je pense que nous passons énormément de temps à essayer de venir à bout de tout ce que nous recevons comme petit papier, n'est-ce pas? Et que le résultat, c'est que nous finissons par lire très peu d'ouvrages, certes plus rebutants, quand on voit l'évangélisation dans l'église primitive de Michael Green, qui coûte 100 francs et des bricoles, et qui fait 400 pages passées, écrites fin, c'est vrai, c'est pas très appétissant. Mais c'est un livre extraordinaire, moi je viens de me régaler, n'est-ce pas? Mais ça signifie qu'il faut faire des choix. Ou bien on se concentre sur cette multitude de petits machins, pardon de le dire comme ça, c'est pas méchant, hein, comprenons-nous, mais c'est vrai qu'ils sont des extraits de ceci, de cela, qui se répètent très souvent, et nous aurons aussi une colonne vertébrale du même type dans notre intellect, dans notre réflexion, dans ce que nous communiquons, ou bien nous disons, bon, il faut que je prenne des décisions, que j'élague, que je sélectionne quelques revues intéressantes, qu'alors je parcourrai plus sérieusement, vis-à-vis desquelles je pourrais m'engager, mais alors, par contre, je vais me discipliner pour lire davantage d'ouvrages plus exhaustifs. Et c'est vrai qu'on entend parfois des remarques de serviteurs de Dieu qui actuellement ne veulent plus lire de gros ouvrages. C'est dommage, parce que c'est important dans notre formation continue, même si c'est par certains côtés assez difficile. Alors je crois que c'est un aspect très pratique à ne pas du tout sous-estimer. Supprimer les piles de revues qui prennent de la place et de la poussière et tiennent en échec nos recherches. Alors, vous me direz, c'est facile, mais quand même, il y a une richesse fantastique dans ces piles de revues. Alors, nous verrons ultérieurement comment extraire de ces revues le maximum pour les liquider. Je crois que vous avez certainement tous fait... Et chaque fois que je parle de cela, il y a des grands sourires. Parce que, de manière très régulière, on sait ce que c'est, on cherche un article. Hein, au départ, quand on l'a lu, on a dit, il est fantastique, je garde le journal, et puis... Hein? Puis quand on va chercher, non seulement on ne trouve pas 9 fois sur 10, mais en plus, ça nous met dans un état d'arrière-goût amer. Parce qu'on se dit, si seulement je l'avais eu, cette illustration, elle colle si bien avec l'étude que je dois donner. Hein? Et c'est frustrant, c'est dommage, l'ennemi en profite. Alors, on va y gagner de la place chez nous, c'est important aussi. Vous voyez, il y a toutes sortes d'aspects extrêmement pratiques, mais je vous donnerai quelques trucs tout à l'heure. Soignez la présentation écrite des études, messages à donner. Oh, j'insiste. J'insiste volontiers avec force là-dessus. J'ai été très frappé le jour où j'ai lu, dans un ouvrage concernant Billy Graham, l'étonnement d'un de ses proches dans le ministère, qui a vu, qui a pu voir sur le bureau de travail de Billy Graham ses manuscrits. Quand on voit Billy Graham parler, on a l'impression que ça coule tout seul. Grande facilité, etc. Et on ne se rend pas compte. La somme de travail qui est cachée derrière cette apparente facilité. Et on ne se rend pas compte aussi la somme de soins d'élaboration des messages. Je pense à une autre femme de Dieu remarquable, à qui Dieu a donné un beau ministère, et qui aussi avait une grande facilité, et chez laquelle c'en était exactement de même. Je crois que nous avons une fausse idée, nous pensons que la facilité apparente de la prédication vient du don initial, du don reçu, du don qui pouvait être naturel, qui a été placé sous la croix, et qui a été redonné, n'est-ce pas, dépouillé, passé au laminoir, pour pouvoir glorifier le Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, loin de là. L'enseignant qui semble parler avec le plus d'aisance et de facilité, c'est l'enseignant qui s'est le plus préparé et qui a mis au point son étude dans les détails. Et ceci, j'en suis de plus en plus convaincu, plus j'avance. Quand je regarde mes études, j'ai maintenant les études, les manuscrits de mes études des 12 ou 13 dernières années que je garde, qui sont classés, que je ressors pour retravailler, etc. Et quand je prends soin de comparer mes manuscrits d'il y a 12 ans avec ce que je fais maintenant, alors que j'ai plus d'expérience dans le ministère de l'enseignement qu'il y a une douzaine d'années, qu'une quinzaine d'années, je me rends compte que je prépare mes messages, mes études, mes séries beaucoup plus soigneusement qu'avant. Et plus j'avance, plus je les prépare soigneusement. Pourquoi ? Tout simplement parce que il a fallu tenir compte de tous les pièges de la mauvaise préparation. À savoir, écriture trop serrée, absence de blanc entre les chapitres, absence d'utilisation de la couleur qui met en évidence certains thèmes, certaines illustrations, absence de code. Bon, je me suis rendu compte, Dieu me préparant un ministère d'enseignement, que j'avais sur ma route quantité de pièges et que je tombais dans ces pièges parce que mes manuscrits, manifestement, étaient flous et je dirais que je n'avais même pas de plaisir. Bon, je me contentais à l'époque de cela, mais je me rendais compte au fur et à mesure qu'il fallait que j'améliore le manuscrit. Et je crois que finalement, c'est le cas de beaucoup. Mais le tout, n'est-ce pas, c'est de toujours apprendre à partir de nos erreurs. Et je me demande si nous avons toujours cette disposition d'esprit. Moi, je demande à Dieu avec force, j'en ai soif. Et remarquez que les mouvements en France qui progressent le plus actuellement, ce sont des mouvements qui ont cette qualité spirituelle fondamentale, c'est qu'ils apprennent toujours à partir de leurs erreurs. On a vu, sur ces 25 dernières années, des mouvements avancés en pointe, mais de manière remarquable, parce que constamment, ils faisaient le point sur les erreurs qu'ils faisaient. Je ne les cite pas pour ne mettre personne en évidence, mais j'y pense. Et ce sont des mouvements qui me font plaisir, parce qu'ils ont eu cette humilité de la reconnaissance de l'erreur et de la correction de l'erreur, même lorsqu'ils avaient déjà du succès dans les premiers temps de leur existence. Souvenons-nous de cela, parce qu'au niveau de la prédication, comme dans d'autres domaines, nous devons faire de même. Nous sommes des hommes en amélioration perpétuelle de notre manière de nous préparer. Et c'est une chose que nous devons communiquer, nous en reparlerons, à nos stagiaires, à ceux que nous sommes appelés à former, à avoir des têtes de chapitre. Bon, ça c'est un manuscrit, bon, je pourrais l'avoir fait pour ça, mais nous pourrions prendre n'importe quoi, avoir des têtes de chapitre, utiliser de la couleur, utiliser des codes, n'est-ce pas, avoir quelque chose qui vous facilite la tâche de manière à ce que quand vous êtes en train de parler, vous ayez le coup d'œil à donner qui vous permette immédiatement, non pas de tomber dans le flou, avec tout ce que ça signifie, et dont l'ennemi profite, parce que quand on est dans la prédication, il y a la puissance des ténèbres de l'autre côté, on a des moments terribles, n'est-ce pas? Mais il faut que tout nous aide. Il faut que nous mettions tous les facteurs de notre côté dans la prédication. Et le facteur rédaction est un facteur dont l'ennemi peut se servir ou dont Dieu peut se servir. Alors nous, on plane, spirituellement, n'est-ce pas? Plutôt que d'être sur la terre, sur ce plan-là. Alors, je le dis avec force, il me semble que cette utilisation de la couleur, du code, du soulignage, l'aération, les paragraphes, etc., prépare à une plénitude dans la prédication. Moi, je me souviens de mon professeur en théologie pastorale, prédicateur éminent, qui nous disait, vous savez, vous voulez être enseignant, vous voulez être prédicateur, dites-vous bien une chose, je mets 25 heures à préparer mes messages. Alors moi, je le regardais, je me sentais très concerné, parce que je vibrais dans ce domaine. J'étais peut-être un peu aussi incrédule en même temps. Et puis, effectivement, après, on se rend compte de tout ce qu'il faut si on veut bien se préparer pour que réellement le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille malgré nous, c'est vrai, mais moi, je préfère qu'il travaille quand même avec moi, pleinement, n'est-ce pas? Alléluia, du fait que, dans sa grâce, Dieu nous utilise comme nous sommes. Mais c'est quand même encore mieux lorsque nous mettons, par la grâce de Dieu, à sa disposition un potentiel qui est vraiment ce que Dieu veut dans sa plénitude. Vous ne croyez pas? Est-ce que nous sommes de ceux qui voulons le meilleur de Dieu? Dans mon étude, la systématique de l'Épître aux Hébreux, avec cette mise sur fiche, je suis emballé par une découverte faite grâce à la mise sur fiche, qui était très vague dans mon esprit, c'est que l'Épître aux Hébreux, c'est l'Épître du meilleur de Dieu. Partout dans cet épître, il est question du meilleur dans tel domaine, du meilleur dans tel domaine, du meilleur dans tel autre domaine. Et puis, associé au mot « meilleur », vous avez le mot « perfection ». Je le citerai d'ailleurs un peu plus loin. Et c'est un mot fantastique. Non, c'est demain matin, vous ne serez pas là, alors je vais peut-être le dire maintenant. Le mot « perfection », mais dans son sens de vie, de maturité qui a un but. C'est le mot qui a un sens de finalité, de but. C'est-à-dire que l'homme parfait dans le Nouveau Testament, c'est l'homme adulte dans sa foi qui poursuit des buts, qui poursuit des objectifs, n'est-ce pas? Qui a atteint des objectifs et qui, à partir de ces objectifs, en poursuit d'autres. C'est encore une notion d'ordre, c'est encore une notion d'organisation, n'est-ce pas? Et c'est ça ce qui nous mène de perfection en perfection. L'ordre, petit détail, c'est le point suivant, c'est l'art de redéposer chaque chose à sa place initiale. C'est peu de choses. Mais là encore, c'est d'une importance capitale. Combien de fois nous cherchons des choses que nous n'avons pas redéposées après les avoir prises à leur place initiale. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place.